Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Verino. Nicolas, bonjour.
Salut Benoît.
Je pense que ça s'est pas passé inaperçu. Le 28 août dernier, Uncle Bob publiait un article, The Tragedy of Craftsmanship, qui est une espèce de réponse ou de follow-up, on va dire, sur la keynote d'ouverture de Martin Fowler sur Agile Australie. Donc c'était le jour même ou quelques jours avant.
C'était le 25 août, je crois.
Le 25 août. Est-ce que tu as lu les deux? Moi, j'ai lu que le papier d'Uncle Bob. Est-ce que tu as lu les deux, toi?
Ouais, moi j'ai lu les deux, ouais.
Alors, si tu nous faisais un résumé déjà de la pensée initiale de Martin Fowler, qu'est-ce que tu as compris et retenu de cet article?
Alors, la première chose qu'il dit, c'est que le mouvement agile existait déjà bien avant 2001, donc publication du manifeste agile, et que l'objectif, c'était de réconcilier management et développement. Donc, il voulait réconcilier les développeurs avec leurs managers ou les chefs de projet, etc. Ça, c'est la première chose, et le business en général. La deuxième chose qu'il dit, c'est que avant 2010, donc entre 2000 et 2010, de son expérience, lui, en tant que consultant, il allait voir pas mal d'entreprises. Il rencontrait des boîtes qui, quand on leur parlait d'agilité, ils savaient pas ce que c'était. Donc, il avait du mal à faire passer ses idées parce que c'était quelque chose de nouveau. Et à partir de 2010 environ, c'est devenu assez terrible puisque les gens, quand on leur parlait d'agilité, soit ils disaient « Oh non, non, c'est horrible l'agilité, ça marche pas chez nous », ou alors ils disaient qu'ils étaient agiles, mais ils n'étaient pas vraiment. En fait, ils n'avaient pas compris.
Ouais, ils avaient des post-it, quoi. Ils avaient des post-it sur les vitres et donc
voilà,
ils étaient agiles.
C'est ça, c'est tout. Ils gardaient une structure comme avant, ils fonctionnaient comme avant, du command and control, voire du taylorisme, mais pas du tout d'agilité. Ensuite, ce qui a été loupé, donc il parle, cette partie-là, c'est la partie attention à l'agile industriel complexe, donc au complexe industriel agile, qui n'est pas très bon. Ensuite, il parle de l'excellence technique, qui a été complètement oubliée avec l'agilité. Et enfin, son dernier point, c'est parlons de produits plus que de projets. Dans le sens où les projets ont une durée de vie très courte et les produits ont une durée de vie longue. Et quand on fait un logiciel de qualité, quand c'est un réel investissement qui rapporte de l'argent, on veut non pas créer des projets, plein de petits projets qui ont une durée de vie courte, mais avoir une vision produit qui est à long terme avec une équipe qui dure. Voilà, c'est un peu les trois points de sa keynote.
Et toi, comment ça fait écho déjà, toi, à ce que tu vois, l'état du marché tel que tu le vois et tes opinions?
Ah oui, clairement. J'ai commencé, j'étais dans une entreprise où on faisait du Scrum, mais les cahiers des charges étaient figés. Donc, il n'y avait que le développement, finalement, qui était itératif. Donc, ça n'avait rien d'agile, en fait. C'était juste, on ne sait pas ce que les devs font, et du coup, on va leur demander de nous livrer régulièrement des trucs pour essayer de vérifier qu'ils font bien, qu'ils font pas n'importe quoi. C'était un peu ça l'idée. C'était sous couvert d'agilité, on va faire plus de contrôle en leur demandant de livrer plus régulièrement. Ensuite, je suis intervenu dans une grande banque aussi, où la banque était organisée en silos techniques. Donc, il fallait parler à 200 équipes différentes pour mettre un logiciel en prod. Donc ça aussi, c'est pas du tout agile. Après, il ne s'estampillait pas agile, donc c'était pas plus mal. Et sinon, qu'est-ce que j'ai rencontré d'autre? C'est à peu près tout. J'ai coaché une startup pour qu'elle devienne agile, donc avec du Scrum dedans. Ça s'est plutôt bien passé. Non, sinon... De mon expérience, de ce que j'en ai vu, ça reflète plutôt bien l'état de l'agilité aujourd'hui avec ce qu'on lit sur Internet, de ci, de là, des différents témoignages. Effectivement, l'agilité était censée ramener un petit peu de bonheur et de paix entre le business et les développeurs, et on ne peut que constater que La plupart des développeurs sont malheureux, malgré le fait que ce soit de l'agilité.
Voir moi les cas que je vois, c'est que ça a accentué certaines choses.
Ouais.
Je le dis, j'ai cette croyance aussi, c'est que passer à l'agilité par effet de mode ou par opportunité ou par d'aller pervertir l'approche en y espérant plus de command and control, plus de check, plus d'engagement. En gros, tu réponds pas à un problème de démotivation d'une équipe par un passage à l'agilité.
Non, pas du tout. Effectivement.
En fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que ça va venir amplifier ou pour moi, les démarches agiles sont des accélérateurs, sont des amplificateurs.
Ouais.
Donc, si la culture, elle est déjà saine, ben, on va amplifier une culture saine. Mm-hmm. Mais si on amplifie une culture qui est soit une culture malsaine, soit, et c'est le deuxième point, une équipe qui est pas forcément bien ancrée dans ses pratiques et qui maîtrise pas forcément son pot de code, ben tu vas juste accélérer un truc qui est ingérable. Et là tu mets en lumière des problèmes qui auraient pu être gérés avec le temps long, sur des itérations d'un an, sur des V1, V2, tu vois, comme
ouais.
à l'ancienne quoi.
Ouais, clairement.
Mais là d'un coup tu mets un gros spot lumineux sur ça, quoi. Et ça peut avoir des effets assez pervers. Hein. Ce qui m'amène, moi, souvent quand je vois des équipes dont le scrum est défaillant, c'est il y a souvent une composante technique. C'est-à-dire qu'il y a souvent une composante où la technique est défaillante, voire on s'en occupe pas du tout.
Ouais, ouais. Ben, ça, après, c'est la grande oubliée de scrum, hein, la technique, hein, de toute façon.
C'est clair. Et on se retrouve avec des PO qui disent « Ouais, ils savent pas estimer ».
Ouais,
mais s'ils savent pas estimer, je vais peut-être questionner la manière de donner le besoin, questionner la maîtrise qu'elle a l'équipe de son code, ou ouais, quand ils réparent un truc, ils en cassent deux autres. Mm. Ah, ouais, en tout cas, ça fait émerger des problèmes par le rythme intensif de livrer toutes les semaines, toutes les deux semaines, même toutes les quatre semaines. Mm-hmm. Pour certaines équipes, toutes les quatre semaines, c'est hyper violent.
Ah oui, clairement.
Et ça vient faire et mettre en évidence certains problèmes, quoi.
Clairement, parce que on va demander à une équipe qui est de base, qui a l'habitude de travailler sur des temps longs où les specs ne changent pas. Enfin, c'était la manière classique de faire, hein. Chaque changement de spec, ça nécessite une nouvelle conception, ça va avoir un impact. Si on est conscient de cet impact-là, puisque l'équipe n'est pas capable de concevoir pour le changement, et on va passer en mode agile, qui est un mode où le changement est accueilli à bras ouverts. Sauf que quand on fait un logiciel et qu'on ne sait pas concevoir un logiciel flexible et qu'on vient toutes les 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines avec des changements, que ce soit de priorité ou carrément de fonctionnalité, ben ça fait l'effet boule de neige, quoi, et ça devient très très problématique, quoi. Alors au début on s'en rend pas compte, hein, si c'est un projet qui démarre de zéro, généralement les premières itérations se passent bien, hein. Par contre au fur et à mesure ça s'envenime très très rapidement, hein. Donc ouais, ça nécessite une excellence technique, et c'est là où Martin Fowler met bien l'accent dessus, c'est que vous voulez faire de l'agilité, vous voulez embrasser le changement, donc vous devez avoir de l'excellence technique, puisque sans excellence technique, vous n'êtes pas capable de concevoir et de faire évoluer un logiciel de manière incrémentale, itérative, convenablement. Et donc vous ne pouvez pas répondre au changement correctement.
Je te propose sur ces belles paroles que ce soit le mot de la fin.
Ça marche.
Merci Nico d'être venu. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où ?
Alors sur mon site internet refacto.fr, ou alors sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter, avec mon nom et mon prénom.
Nicolas Verino, ça marche. Je te remercie. Quant à toi, cher auditeur, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Viens t'inscrire sur artisandeveloppeur.fr pour rejoindre la communauté des artisans passionnés, des développeurs passionnés, et je te dis à demain.